créatures, c'est tout ce programme. Je vous ai lu ça parce que Jésus va parler d'être né de l'eau et de l'esprit. Hein? Alors, je reviens à notre programme à nous. J'ai fait cette lecture. Le moyen, c'est l'eau et l'esprit. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, vous vous souvenez, c'est Jean chapitre 3, c'est la conversion, nouvelle naissance, c'est le programme. Hein. En fait, la nouvelle naissance n'est pas un but en soi. Le but, c'est tu dois naître de nouveau pour voir le royaume. Vous saisissez, la nouvelle naissance est le moyen, mais pas le but. Mais le moyen obligé. Par l'esprit, pas par ta force. Ce n'est pas possible. Il faut que ça vienne de notre Seigneur l'Esprit. Vous comprenez ça? Ça, c'est un discours qui a été fait avant et pendant l'exil. On dit, mais c'est quoi? Comment il va se faire ce programme des promesses, des bénédictions d'Abraham? Réponse du Seigneur, pas par votre propre force, ça vous est donné. Alors, l'un des problèmes, là, on va y arriver doucement, je vais un petit peu vous bombarder de versets bibliques. C'est un jeu dangereux parce qu'on peut sélectionner là-dedans, mais je voudrais montrer les problématiques importantes. Ouais. On a parlé de l'image de Dieu. Qu'est-ce qui distingue un homme d'un animal? Pas grand-chose. L'image de Dieu. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, c'est quoi l'image de Dieu? Moi, j'en connais qu'une seule. Enfin, plutôt des humains, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble tellement cette image a été tordue. Oui? Mais il y a quelqu'un qui a dit « Il est l'image du Dieu invisible. » C'est Jésus. L'image de Dieu en nous, c'est Jésus. Pas comme sauveur seulement. Comme Seigneur et Sauveur. En fait, vous ne pouvez pas séparer ces deux-là. Jamais. Ce n'est pas possible. Il est toujours Seigneur en tant qu'il est Sauveur. Parce qu'il est aimant. Et il est toujours Sauveur parce qu'il est Seigneur. Vous ne pouvez pas séparer. Il n'y a que nous dans nos têtes qu'on dit « Moi, j'ai reçu Jésus comme Sauveur. Merci. Je vis comme je veux. » Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de justification sans marche sérieuse à la suite du Seigneur. Ce n'est pas possible. Comment dire? Sans la sanctification, on ose encore le dire, celui-là? Nul ne verra le Seigneur. Ceux qui commettent ces choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est Paul qui dit, c'est Jean qui dit, c'est Matthieu qui dit, et ça converge. Alors vous allez me dire, oui, mais... Elle n'est pas achevée complètement, cette restauration par l'Esprit en moi. Je me connais assez, hein. Je suis né de nouveau pour des raisons peut-être même égoïstes. J'ai confessé des péchés. Mais après, si je ne marche pas à la suite du Seigneur, cette restauration de l'image de Dieu en moi, elle restera inachevée. Alors, je vous montre, entendu lors d'un enterrement hier, je cite le prédicateur et j'applaudis. Savoir nos péchés effacés par la mort de Christ, il a dit le prédicateur. Ça commence par là. Et après, parlant du monsieur qui est mort, il a dit « Les qualités qui furent les siennes au défunt reposaient sur cette foi. » De quelle qualité il a parlé? On n'a pas parlé de ses péchés. Hein. Ce n'est pas le moment d'ailleurs. Mais on a dit qu'il était joyeux, qu'il aimait la vie, qu'il était bon. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Enfin, épicurien. Oui, c'est typique, mais je ne comprends pas qu'un enfant de Dieu ne soit pas quelque part épicurien. Enfin, ça veut dire quoi, épicurien? Quelqu'un peut dire? Il aime la vie. Ouais. D'où vient la vie? Bon. Et après, il est dit, donc les qualités qui furent les siennes reposaient sur cette foi et pas sur la bonté intrinsèque à cette personne. Mais sur cette foi. Et après, citation, parlant de l'espérance de la résurrection, encore à venir, il a précisé, dans cette condition de perfection, il pourra jouir pleinement de l'amour. Je me souviens de cette phrase. Et là, il y a une tension assez intéressante, hein, et je crois qu'il est assez juste. Je l'ai entendu. Lors des enterrements, on fait de la haute dogmatique. Alors, reviens dans le vocabulaire de l'apôtre Paul. On a beaucoup cité un apôtre. Et pas beaucoup Pierre, on ne va pas beaucoup citer Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais beaucoup Paul, d'accord ? Typique dans le vocabulaire de Paul, si quelqu'un est en Christo, en Christ, c'est une des plus belles choses à définir et une des plus compliquées. Qu'est-ce que c'est en Christ ? Vous avez une définition ? Si quelqu'un est en Christ, voici une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'abord, premièrement, en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. C'est quoi ? Le pauvre. Pardon, je fais exprès. Il est mort à ma place. Oui, je fais exprès. C'est plus que ça. Tu es d'accord avec moi ? C'est plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ ? Aidez-moi. Oui, mais plus que ça. Parce que le Seigneur ne veut pas juste un tas de pardonnés. Ça ne fait pas encore le royaume de Dieu un tas de pardonnés. Je fais exprès, hein, je fais exprès. Hein ? Oui, en Christ, c'est aussi l'esprit, son esprit qui est envoyé. Je vous enverrai mon esprit, d'accord ? C'est aussi son esprit.
Mais il faut quand même commencer par la croix.
Mais oui, et avant la croix, avant la naissance de Jésus. Et avant, après la naissance de Jésus, l'enseignement moral de Jésus, avant la croix. Oui. Il est question d'une personne. Si quelqu'un s'identifie à cette personne, participe à cette personne, c'est pas juste croix ici, saisissez. C'est pas non plus, Seigneur, J'ai une culpabilité sur la sexualité, je te demande pardon, merci, ça m'aide, ça me soulage. C'est juste le début de ça. En Christ, c'est tellement plus beau. Vous saisissez ? C'est-à-dire dans une communion vivante avec une personne. Je me familiarise avec quel type d'homme il était. C'est pour ça que j'ai besoin du sermon sur la montagne pour le « en Christ ». J'ai besoin du pardon. Et ça, chroniquement, et jusqu'au bout. Si quelqu'un est dans cette communion vivante avec cette personne qu'est le Christ qui règne aujourd'hui, parce que je ne suis pas en communion avec un cadavre crucifié. Pardon, j'utilise des images, hein, je fais exprès. Si quelqu'un est en communion vivante avec le Seigneur qui règne aujourd'hui, dont le mode de règne s'étend, voici un nouveau programme où il fait bon vivre, une nouvelle création. Vous avez vu, Tob a... Ah oui, c'est ici qu'il faut que je... Pardon, moi j'avance là. Si quelqu'un est en Christ, excusez-moi, j'avance là. Si quelqu'un est en Christ, en Christo, il est une nouvelle créature, dit certains passages, mais ktisis, c'est création. De quoi il parle dans le contexte d'un problème relationnel à l'intérieur de l'épître, à l'intérieur de l'Église aux Corinthes. Relationnel, ça veut dire que c'est plus que moi. Plus que créature, c'est création, c'est des rapports. Vous saisissez ? Les choses anciennes, c'est-à-dire les manières d'être revanchard, un œil pour un œil, une dent pour une dent, ou plus si ça va. Hein ? Oui, vous comprenez ? Ça, c'est fini. On arrête de jauger les gens selon leur mérite. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, qu'est-ce qui change ? Ce sont des qualités de rapport. Galates, une autre lettre du Nouveau Testament, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Bon, ça, pour le judaïsme, c'est offensant. Hein. Mais il dit, la vraie essence de ce truc de circoncision, c'est le cœur. La circoncision du cœur, c'est là que ça fait la transformation. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alors, ça reste une question très importante pour le tout de notre vie, du début à la fin. À la fin, et même pour des vieillards, j'ai reçu les archives d'un vieux pasteur qui est mort. Et dans ses derniers jours, il écrivait, ses derniers à lui, Pourquoi ce hiatus dans mon cœur entre ce que je dis et ce que je vis? Il n'y a que lui, il n'y a que lui et moi. Il y a un hiatus. Il y a quelque chose qui voit l'inachèvement encore. Mais il voit le début, il voit les promesses, mais il voit aussi l'inachèvement. Comment on vieillit? On dit en général, quand on vieillit, on n'a plus les défauts parce qu'on n'en a plus besoin. Je ne suis pas sûr. Et souvent, les défauts, et même les qualités deviennent des défauts quand on vieillit des fois. Moi, je blague. Hein. Je blague. Mais s'il n'y a pas un accueil objectif et que moi, je passe ma vie tout entière à la jauger selon le sentiment et le ressentiment subjectif, je vais être perdu. Parce qu'à un moment donné, je ne peux plus me déplacer, si certains arrivent encore à se déplacer plus vite que ce que j'arrive à suivre, mais on se sent faiblir, et si on n'a pas réglé cette question du salut objectif, c'est payé, je suis adopté. Avec ou sans Alzheimer qui viendrait chez moi, je suis adopté. Objectif. Pourquoi? Parce que la Bible me le dit et j'ai confiance dans la bonté de Dieu. Vous saisissez? Je suis sauvé parce que je crois, la foi, pas parce que je ressens la proximité ou la distance de Dieu. Je redis. Je suis sauvé parce que je crois dans les promesses de Dieu, objective. Pas parce que je ressens la distance ou la proximité de Dieu. Vous saisissez entre le objectif et le subjectif. Ça va nous aider. Parce que si on est chrétien que quand on a l'impression que Dieu est proche, c'est que probablement on ne sera pas chrétien quand on aura l'impression que ça va mal. Pour un temps. Alors, cette question de la nouvelle création, j'espère que ça vous aide de parler comme ça. On ne thématise pas souvent cette question, mais elle me paraît importante. Et je posais la question, qu'est-ce qui est nouveau dans vos discussions? Qu'est-ce qui est nouveau quand vous avez reçu Christ dans votre vie? Le pardon de mes péchés. Et qu'est-ce que ça soulage, ça fait du bien. Mais encore, une communion vivante avec Dieu. Et quelqu'un qui a ça de particulier, c'est qu'il est premièrement amour. Deuxièmement, il a vaincu la mort, ce qu'aucun des gourous que je connais et qui ont des prétendus sauveurs et aucun d'autre des ismes de ce monde n'a fait. Oui. Ensuite, qu'est-ce que vous avez reçu? L'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait d'abord cet esprit? Il me donne la paix, la joie, et il rend témoignage à mon esprit. C'est un drôle de machin, ça. L'esprit vient, il m'atteste que je suis un fils de Dieu, que je fais partie de la famille, des dispersés qu'il rassemble sur la surface de la terre. Autre chose, qu'est-ce que vous avez encore dans vos discussions? Qu'est-ce qui est neuf? Qu'est-ce qui est nouveau? Les choses anciennes ont changé. C'est quoi les choses anciennes? Qui? Allez, soyons un petit peu plus modestes. Ont commencé à changer? D'identité. Je suis devenu enfant de Dieu. Les valeurs commencent à changer. J'ai dit commencer, vous êtes d'accord avec ça? Ou bien c'est immédiat? Est-ce que la conversion change magiquement les défauts de ma vieille nature? Progressivement. Question. Voici une courbe. Est-ce que c'est progressivement droit comme ça? Ou bien c'est... Ou bien c'est conversion, baptême du Saint-Esprit, troisième onction, et après ça explose. Hein? Donc, j'essaie de poser la question. Essayez de ne pas faire ça. Puisque si vous faites ça, vous quantifiez quelque chose où vous êtes le performeur. Oui. Oui, Oui, une plus forte conscience. Il y a un principe de vie, mais il faut le déballer. Et ce déballage, il est surprenant. Tout d'un coup, ça te rejoint. L'économie est aussi concernée. Moi, quand je me suis converti, c'était pas dedans. Tu saisis ? C'était juste encore donner quelque chose aux pauvres, mais je ne savais pas que c'était l'économie qui était à convertir. Il fallait de l'enseignement. Alors, la plupart d'entre vous viennent d'arrière-plan chrétien, ils ont cet avantage, c'est que ces valeurs sont déjà des valeurs, mais sinon, il faut enseigner le royaume de Dieu. Hein. Donc, la transformation graduelle de son caractère et de ses relations, c'est compris dans le nouveau. Maintenant, je continue un petit peu à cette manière, d'accord ? La restauration de l'image de Dieu par Jésus-Christ et l'Esprit. Il y a une image de Dieu, ce type d'homme qu'on est quand on reflète Dieu. J'ai dit le type d'homme et de femme, d'accord ? Le type d'homme, l'image, c'est... Oui. L'image ? Comment ? L'humilité. Mais pas l'écrasement, l'humilité, le fait de savoir que ça ne vient pas de toi, tu n'es pas un dieu, je ne suis pas un dieu. Encore. Oui, c'est quoi le type d'homme que la capacité d'être décentré et d'aimer intelligemment. Continue. Le service de tous, surtout des exclus. Oui, moi je parle des chrétiens maintenant, de ceux qui n'ont pas d'excuses. Non, mais l'absence est plutôt un signe opposé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que dans la grâce générale de Dieu, Dieu peut donner même des conséquences du christianisme anciennement ambiant sans qu'il s'imagine d'où ça vient. Je suis d'accord de mettre dans la haute de notre Père céleste, toutes ces grâces comme des grâces qui viennent de lui. Nous tous qui le visage dévoilé, ça rappelle Moïse. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés à cette image avec une gloire toujours plus grande. Et ça, j'aimerais que ce soit vrai, le toujours plus grande. Par le Seigneur, qui est l'Esprit. Et j'aimerais juste vous dire, nous avons peut-être... C'est moi, tourner ça comme ça. Le Seigneur a besoin de plus de nous. L'Esprit a besoin de plus de nous. Pas nécessairement nous, plus de l'Esprit. Le Seigneur a besoin de plus de nous, pas nécessairement nous, plus de l'Esprit, je redis. Vous arrivez à comprendre cette switch-là ? Ce switch-là, c'est il y a un impératif dans le salut et un indicatif. Je vous ai justifié, d'accord ? Soyez juste. Je vous ai aimé, aimez-vous. Essayez de comprendre. Cette ouverture à l'Esprit doit être une disponibilité à l'Esprit. Plus qu'une autre expérience mystique par-dessus. Je n'ai rien contre les choses extraordinaires. Moi, je suis un être de nerfs et de sang, et puis j'aime jouir des choses. Hein. Mais je crois voir là une transformation qui vient par l'Esprit. L'Esprit applique la nouvelle création. L'Esprit était à l'œuvre à la création, et quand il s'agit d'une nouvelle, il est toujours à l'œuvre. Mais le but est la création. La création guérit. 2 Corinthiens 3. Ou alors, vous avez, toujours, pas aux Corinthiens cette fois-ci, qu'il envoie aux Romains. Et en plein milieu, dans la charnière, il dit « Ne vous conformez pas à la mentalité du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Autrement dit, si celui-là, elle est disponible à qui a été Jésus, donc à la parole, est disponible à l'esprit qui l'applique, vous allez commencer à penser autrement. Vous avez vu le processus ? Ce n'est pas un accompli. Il dit, soyez transformés. Ça ne veut pas dire que c'est juste magique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de voir autrement. Voir autrement. L'argent, le partenaire de vie, le sexe différent, les relations, les conflits, voir autrement, transformer. Et après, il est dit, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, Romains 12. Ou alors, mes petits-enfants, que dans la douleur j'enfante, c'est un homme qui parle. Il parle d'une église. Mes petits-enfants, que dans la douleur j'enfante, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image, c'est des douleurs pour la naissance d'un monde nouveau. Hein. Mes petits-enfants, dit-il à Galates chapitre 4, verset 19, que dans la douleur j'enfante à nouveau jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. J'aime cette dimension de but de la prédication chrétienne, de but de la spiritualité chrétienne, le Seigneur Jésus formé en moi. En collectif, vous, parce que le corps de Christ, c'est un collectif. Vous avez vu la tension entre le collectif et l'individu. Une chose, vous n'avez pas dit, qu'est-ce qui est neuf? Vous auriez pu dire, j'ai une nouvelle famille. J'ai d'autres rapports. Qu'est-ce qui est neuf en Christ? J'ai une nouvelle famille. Ça ne veut pas dire que j'ai plaqué la vieille. Mais ça veut dire que je considère comme égaux frères et sœurs dans un but collaboratif et complémentaire les charismes et les dons. Cette nouvelle entité qui est en Christ. Et pas que locale, territoriale et nationale et transnationale. Et ça change beaucoup de choses. J'arrive pas à comprendre des chrétiens qui ne sont pas des internationalistes. J'arrive pas. Ça me dépasse. Mais on peut faire des progrès, on peut faire des petits pas, poser des signes. Je continue. Comment voyons-nous cette progression, restauration réelle dans la vie d'un chrétien? Ah, merci. Alors, tu sais, j'ai tellement l'habitude que la projection suit mon truc. Oui, on est là, en fait. Oh, il y a longtemps que j'aurais dû vous le montrer. Voilà. Vous arrivez à suivre. Les idées sont toutes simples. C'est beaucoup de mots pour dire des choses toutes simples et fortes et profondes, hein, et belles. Et belle. Comment voyons-nous cette progression, cette restauration réelle dans la vie d'un chrétien? Oui. Oui. Quand tout va bien, on ne voit pas la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Maintenant, tu sais, moi, les béchères, je les connais. Hein. Moi, je connais un certain nombre de défauts assez communs à mes frères et à moi. J'ai la chance d'avoir des frères et de vérifier qu'il n'y a pas que moi. Hein, mais on a pris des modèles. Hein. Et nos modèles, c'était mon père et ma mère et les circonstances dans lesquelles nous avons grandi. Hein. Et d'ailleurs, chacun de nous, c'est le cas. Hein. Je ne fais pas d'illusions, on est tous pareils. Hein. C'est l'ABC de la réalité. Hein. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle on ne peut pas inviter notre Seigneur, l'Esprit, à appliquer Jésus en nous. Vous vous souvenez de cette image? Non, vous étiez là à la prédication quand j'avais ça? Ah, oui, non, mais non. Bien sûr que c'est pas, vous ne pouvez pas. C'est vers où qu'il faut que je... Oui? Oui? Alors, c'est devant qu'il faut que... C'est devant. C'est égal. Ah, oh là, il a maigri. Non. Bon, imaginez-vous. Oui. Alors, c'est cette image de, avant la réformation de Genève, qu'on a trouvé aux archives de Strasbourg, où un jardinier chrétien a voulu faire connaître à ces gens qui ne lisaient pas les évangiles quelque chose de ce combat de la nouvelle créature. Voilà. Alors, il a dessiné un homme. Vous l'avez pas vu encore ? Alors, ceux qui étaient là l'ont vu. Il est en train de montrer quelque chose qui se passe en lui. Ce qui se passe en lui, c'est ce qui se passe normalement dans tous les chrétiens. J'ai entendu parler de Romains 7, là, tout à l'heure. On peut aussi prendre Galates. Galates, ici, c'est le passage qui a inspiré ce jardinier de Strasbourg, de la Cruteno de Strasbourg, qui a dessiné le combat normal de la foi chrétienne dans la vie intérieure, parce que c'est dans la vie intérieure que ça se passe, où... Ah ! Alors, c'est là. Qu'est-ce qui vous frappe ? Il montre quoi ? Bon. Son intérieur. C'est moi qui ai fait bouger ? C'est drôle, il a comme une mémoire. Alors, je bouge plus. Voilà. Ne bougeons plus. Vous voyez qu'il y a un cœur. Et en dessous des cœurs, il y a des sortes de boyaux. C'est en fait un serpent. Et pardon, c'est une tête de femme, comme Ève, avec des seins, vous la voyez ? Bon, on aurait pu mettre un vieil homme, hein. C'est pareil. C'est juste pour dire que ce n'est pas censé être sexiste. Mais pour un gars... Il n'a pas dessiné une femme, il a dessiné un homme avec les cheveux du XVIe siècle, hein, de 1530 à peu près. Il a dessiné un cœur. Et dans ce cœur, il a dessiné un bébé tout nu, vous voyez ? Et le bébé tout nu, ça représente le nouvel Adam, la nouvelle créature. Et ce nouvel Adam, il est dominé par quelque chose. Par ? Vous voyez l'esprit ? Il y a la colombe. La colombe en sandwich entre la nouvelle créature et puis Jésus. Vous avez vu ? Autrement dit, c'est essentiellement une affaire de ceux qui dominent. La vie spirituelle est essentiellement une affaire de ceux qui dominent. Si quelqu'un est en Christ, le « en Christ », c'est ce qui domine. C'est mon identité. Si quelqu'un est en Christ, voici une nouvelle création. Donc, vous voyez aussi, il y a du fort jaune feu qui... chaleur qui sort de la bouche de serpent, et il y a quelque chose qui rayonne du Saint-Esprit et de Jésus. Ce combat-là est normal dans la vie d'un chrétien. Si jamais il n'y a plus de combat, c'est probablement que c'est la paix des cimetières. Saisissez ? Il n'y a plus de combat de conformité au Christ. Or, la conformité au Christ est un combat entre nos vieilles manières de voir, qui sont égoïstes et méchantes, et celles du Christ, qui peuvent fréquenter sans condamner, qui peuvent aimer et dire la vérité, qui peuvent remonter les bretelles à des théologiens, parce que le royaume de Dieu, ils en ont fait un repère de brigands, une caverne de voleurs, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a l'esprit. Et toutes les armes sont défensives. Et la seule arme qui est offensive, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, ce n'est pas ton épée. C'est l'épée que l'esprit va utiliser qui est la parole de Dieu. D'accord ? C'est juste c'est assez intéressant. C'est une arme défensive, vous vous rendez compte ? Le défensif, c'est le combat. Le combat contre d'autres valeurs que l'on refuse de laisser dominer. Maintenant, je reviens. Je continue. L'origine du vocabulaire, là on l'a vu, naître d'en haut, non naître d'eau et d'esprit. C'était Ézéchiel chapitre 36. Et qu'est-ce qu'il y a dans Ézéchiel chapitre 37 ? La vallée d'ossements desséchés. La vallée d'ossements desséchés, c'est l'armée du Seigneur qui est tellement en échec qu'il n'y a plus personne de rescapé pour enterrer les autres. C'est pour ça qu'ils sèchent dehors. Peuvent-ils être de nouveau opérés ? Est-ce que le peuple international, est-ce que le peuple de Dieu peut renaître ? Réponse ? Souffle des quatre coins de l'horizon, l'esprit et l'eau. L'eau de la repentance et du baptême, de la repentance. purification et esprit nouveau qu'on ne peut pas faire. D'accord ? Je crois que c'est très important de comprendre finalement quelle est l'œuvre de Jésus. Nicodème de Jésus, la nouvelle créature, s'inspire de l'image du réveil d'entre les morts. On voit ça, par exemple, dans Éphésiens 5. « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et sur toi le Christ resplendira. » Je vous rappelle que nos églises sont issues du réveil. Et le réveil, c'est précisément au cœur où on a dit, c'est pas que la doctrine, c'est aussi l'esprit. C'est du vécu, c'est l'esprit, c'est la nouvelle naissance, c'est la sanctification, on disait, dans le temps. N'est-ce pas ? Ça, c'est typique du réveil qui a donné naissance à ce type d'église. Et je crois que c'est important de rester dans la compagnie de l'esprit. Peut-être un peu plus de dire, je veux être plus disponible à l'esprit plutôt que je veux plus d'esprit. Comme si Dieu était radin et qu'il ne donnait pas tout l'esprit. C'est dans l'autre sens. Hein ? Reprendre la vision d'ossement sur lequel l'esprit souffle à Ézéchiel 36 à 37 pour redonner vie à une armée opérationnelle qui s'appelle l'Ecclésia. La synagogue du Seigneur, pas de Satan. Et l'Esprit, est-ce maintenant que cette prophétie se fera ? Oui, c'est pour le réel, c'est pas juste pour dans le ciel. Où en est la restauration de l'image de Dieu en nous ? Et là, je définis un certain nombre de choses. Pardon. La foi, c'est l'attitude de renoncer à se justifier. J'aime cette définition. La foi, c'est l'attitude de renoncer à se justifier, qui accepte le jugement de Dieu sur soi et son œuvre de salut par Jésus-Christ. C'est ça, la confiance. Je t'aime, j'ai accepté, Seigneur, que sans ton amour, moi, je ne peux pas. Ensuite, la sanctification, c'est un drôle de mot. Hein. Je n'ai pas entendu beaucoup le mot sanctification dans aucune église évangélique ces 10 dernières années. Parce que ça fait peur. On se dit, c'est quoi ça ? D'abord, est-ce que c'est obligatoire ou c'est facultatif ? Oui. Alors, la sanctification, qui est la même chose que le discipulat. Sauf que le discipulat, on a fait un truc technique de communication, alors que ce n'est pas ça. C'est suivre le Christ, c'est marcher avec le Christ. La sanctification, ou marche à la suite du Christ, discipulat, est la justification vécue par la foi en Jésus-Christ. C'est le processus qui consiste à devenir ce qu'on est. J'aime ça. C'est le processus qui constitue à devenir ce qu'on est. Tout en gardant ton individualité proche. Tu es toi. Et ça va garder la complémentarité collective. La plénitude de Christ, c'est qu'en Église que l'on peut le vivre. Ce n'est pas tout seul. Saint, ça, je parie qu'on n'aime pas sanctification parce qu'on ne sait pas définir saint. Parce qu'on pense que c'est impeccable. Hein, alors que saint, c'est mis à part, c'est spécial, c'est particulier, mis à part pour Dieu. Alors, à son contact, c'est saint. À son service, c'est la sanctification. Alors, ça commence à devenir plus intéressant et attrayant que l'impeccable qu'on ne peut certainement jamais devenir et qu'on ne doit pas chercher à devenir. À son service, propriété de Dieu, identité, hein, a dit tout à l'heure. À sa disposition, Seigneur, avec les dons et les moyens qui sont les miens, comment je peux être à ton disposition ? C'est ça, saint ou sanctifié. Le Nouveau Testament l'applique à tous les chrétiens. Vous pouvez vérifier, enfin, vous les saints, enfin, vous vous rendez compte ? C'est juste pour montrer, on est gêné parce qu'on a une définition un petit peu décalée. Je continue, la conversion à Jésus n'est pas qu'initiale, mais continue. Regardez voir, par exemple, on a vu que c'est la bonté de Dieu. Oui, je vous donne juste un exemple, ne copiez surtout pas tout ça. Hein. Un exemple de la conversion initiale est indispensable. Ça s'appelle la nouvelle naissance, ou appelez-le comme vous voulez, la régénération. D'accord ? La conversion initiale commence avec une abdication. Je t'invite, Seigneur, à rentrer, je ne peux pas sans toi. Mais après, la conversion continuée, c'est normal. C'est normal. Je vous donne un exemple. Paul craint que beaucoup ne se repentent pas du mal qu'ils ont commis. Je vais vous faire une lecture de 2 Corinthiens 12. On ne prêche pas souvent là-dessus. Hein. Je crains en effet, dit Paul, de ne pas vous trouver à mon arrivée, dit-il aux chrétiens de Corinthe, tel que je veux, et que vous ne me trouviez pas, moi, tel que vous voulez. Autrement dit, je vais vous remonter les bretelles. Qu'il n'y ait chez vous de la discorde, de la jalousie, de l'emportement, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'insolence, des remous. Ça a dû dire. Enfin, qu'il y en ait passagèrement, c'est normal, compte tenu de ce qu'on est et de la mission qu'on a. Mais qu'elle soit dominante et durable n'est pas normal. Vous êtes d'accord avec ça ? Après, je crains qu'à mon prochain passage, mon Dieu ne m'humilie devant vous. C'est drôle de truc. C'est le patron qui lui dit « t'as fait du mauvais travail, Paul hein ?» Et que je n'ai à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché antérieurement, bon ça veut dire tout le monde, hein, et qui ne se seront pas convertis de leur impureté, de leur inconduite et de leur débauche. Autrement dit, ils venaient à l'église, mais ils se contentaient de continuer comme avant, d'accord, mais ils se contentaient de croire qu'il y avait un évangile à bon marché qui leur permettait juste d'avoir le pardon de Dieu, point final. Vous saisissez ? La grâce qui pardonne, oui, mais la grâce qui pardonne en même temps nous oriente vers une transformation. Sinon, elle est une, je le redis, sinon elle est une, la grâce qui pardonne est une illusion. Est-ce qu'on peut s'illusionner dans une église évangélique ? Oui. Il faut que ça touche le réel, hein, que ça l'oriente, même si on n'est jamais tout à fait impeccable et qu'on restera des pécheurs ambulants, en manque d'intégrité parfois, d'amour souvent. Mais on sait qu'on est au Seigneur. Et le Seigneur ne fait pas de comptabilité comme nous le regardons. Alors oui, l'objectif, vous avez été justifié, vous avez été, c'est un accompli. Je vous donne, je vais vous montrer ce dilemme. J'aimais beaucoup un auteur qui s'appelle Jim Wallis. Il a écrit « The Call to Conversion ». Il écrit cette phrase que je vous mets en traduction française. Les églises aujourd'hui sont tragiquement partagées entre celles qui accentuent la conversion, mais ont oublié son objectif, et ceux qui accentuent l'action sociale chrétienne, mais ont oublié la nécessité de la conversion. Et si tu regardes l'écriture, c'est les deux, mon général, hein, c'est ensemble. Ouais. Vous en supportez encore un peu ? Les autres ? Il n'y a pas de foi sans comportement moral correspondant. La sainteté, que vous l'appelez la croissance, ça m'est égal dans le Seigneur, ou si vous vous appelez porter du fruit, c'est la même image hein, pour moi, c'est juste des images différentes. Ce que vous l'appelez suivre le Christ, eh bien, tout ça, c'est par l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de la conformité au Christ, individuelle et collective. Paul, Matthieu et Luc ont des affirmations parfois paradoxales. Moi, je vous le dis. D'abord, il y en a qui disent la grâce justifiante. Et d'autres, vous lisez, le Seigneur fait des exigences morales. Alors, où on est sauvé par la grâce, mais pas par la moralité, mais pourtant il y a des exigences morales dans l'Écriture. Comment vous faites pour voir les deux ensemble ? Ben Jacques, oui. Et moi, je te montrerai la foi par le style de vie. C'est un dilemme. C'est présent dans l'Écriture. La vie chrétienne est à la fois don et commandement. Et elle est les deux à la fois. C'est-à-dire, tu vas mouiller ta chemise. Tu vas te donner un coup de pied au derrière. Tu vas changer cette mauvaise habitude. C'est toi qui es concerné, tu es responsable. Et à la fois, sans l'Esprit, vous ne pouvez rien faire. Et les deux sont dans l'Écriture, et fortement les deux. J'arrive pas à comprendre comment, mais c'est les deux. Autrement dit, quand il y a une transformation par l'Esprit, les choses de la transformation se mettent en route. Oui. L'obéissance à qui, c'est ça? Parce qu'attention, il y a l'obéissance à Moïse et les pharisiens sont doués, là. Ils peuvent te couper le parfum et mettre la dîme du parfum. Mais par contre, leur péché, c'est d'avaler tout cru, les chameaux. Ils filtrent le moucheron et ils avalent le chameau. L'animal le plus gros qu'ils connaissent en Israël, ils le gobent tout cru. Et ils filtrent le moucheron des autres. Hein, d'accord? Donc, ils sont malades de la proportion des choses. Et un chameau, c'est la miséricorde, c'est la confiance. D'accord, c'est la miséricorde. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Regardez. Vous marchez sur deux pieds, d'accord? Vous marchez sur deux pieds? Vous êtes d'accord qu'on marche sur deux pieds? Est-ce que parce que j'ai deux pieds, je marche? Non, qu'est-ce qu'il faut? Et comment on fait pour avancer? Il faut se déséquilibrer. Essayez de ne pas vous déséquilibrer. Vous n'arrivez pas. Vous avez deux pieds, c'est très bien. Il faut deux pieds. Mais pour avancer, il faut une tension, il faut un déséquilibre. Vous ne pouvez pas avancer le pied droit sans mettre le corps vers devant. Parce que si j'avance le pied droit, je ne peux pas avancer. D'accord? Je ne marche pas là. J'avance le pied droit, c'est tout. Pour marcher, il faut cette tension, ce déséquilibre. Dans l'Écriture, il y a la même chose. Regardez maintenant. Là, j'en ai pris que 6. Mais je pourrais prendre 20 sujets de doctrine et vous trouver la même chose chez le même apôtre Paul. Regardez. Quelqu'un me lit la première à gauche, Éphésiens 2, 5. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Est-ce que vous êtes sauvés? Et pourtant non, nous sommes sauvés en espérance. Romains 8. Autrement dit, le gros du paquet, la promesse t'est donnée, mais le gros du paquet est à venir. D'ailleurs, si vous cliquez sur « salut », c'est plus que ce que vous imaginez. Vous savez, cliquez dessus, c'est un vocabulaire de... Ouais. Si vous déballez ce que c'est que le salut, c'est quoi qui est sauvé chez nous? L'homme intérieur, l'homme extérieur se détruit. Oui. Le casier judiciaire est sauvé? Oui. Parce qu'il a pris sur lui... Est-ce que mes finances sont sauvées? Est-ce que ma manière de regarder autrui est sauvée? Est-ce que c'est une bonne question? Oui. Est-ce que ma manière de parler est sauvée? C'est-à-dire guérie. Salut et guérison, c'est le même mot en hébreu. Est-ce que c'est guéri? Vous saisissez, la question, c'est l'étendue. Hein. C'est très important. Quand nous sommes sauvés en espérance. Ce que ça veut dire être sauvé, un jour nous le verrons dans une terre où la justice habite, où la mort n'existe plus. Et je m'en réjouis. Regardez, vous avez été justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous, protestants et évangéliques, nous avons mis l'accent sur la colonne de gauche très très fort. Tellement fort qu'on avance sur un pied et on se fatigue. La colonne de droite, nous avons pensé qu'elle est trop légaliste, il ne faut pas s'approcher, c'est dangereux. On va ressembler aux Amish ou je ne sais pas qui. C'est par la foi que nous recevons par l'esprit l'espérance de la justice. Vous avez vu l'espérance? L'espérance, ça veut dire que vous n'avez pas encore tout à fait. Galates 5, regardez. Vous avez reçu l'esprit d'adoption. Il rend témoignage à notre esprit. Romains 8, d'accord? Nous avons reçu. Et en même temps, nous soupirons en nous-mêmes, attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous avez vu cette expression? Attendons l'adoption. Et j'ai pris que du Saint Paul, hein, j'ai pris que de l'apôtre Paul. Je n'ai pas prié encore ailleurs pour confondre les choses. Essayez de comprendre. Le déjà est clair et le encore à venir, cette tension qui existe entre les deux. Vous sentez la tension? Alors, on continue. Vous avez été sanctifié. 1 Corinthiens 6, 11. Si tu es en Christ, tu es sanctifié. Mais en même temps, il y a, ce n'est pas que je sois déjà arrivé à la perfection, Philippiens 3, 12. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah bon? Galates 2, 20, c'est un accompli. Mais regardez, le même apôtre Paul dit, mon désir est de quitter et d'être avec Christ. Vous arrivez à comprendre? On continue, mais je vous donne juste des exemples. Comment dire? Dire la Bible et la parole de Dieu, c'est s'imprégner de cette tension qui existe entre, comment dire, de ce vecteur, de ce déséquilibre vers l'avant, de ce soupir. Le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 14, c'est déjà, toute la colonne des déjà, eh ben, vous avez, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Futur. Alors, je voudrais juste vous rendre attentif un petit peu à cette tension. Cette tension, c'est entre ce qui nous est déjà donné. Est-ce que tu as reçu tout le Saint-Esprit? Les arts, le gros du paquet est à venir. D'accord? Vous saisissez cette tension? Cette tension fait qu'on soupire après une transformation et un monde où le Seigneur habite pleinement. Et ces soupirs-là, ce ne sont pas des plaintes. Ce sont des choses qui nous mettent en avant. Et c'est ça la sanctification, essentiellement. Voilà, je fais avancer là. Et les questions des groupes, on peut y revenir maintenant si vous voulez. Qu'est-ce qui est neuf en Christ et déjà effectif dans le chrétien? Un appel, une grâce, un pardon, une communauté nouvelle, une invitation à la transformation, une manière d'être transformé qui fait du bien pour aimer. Et c'est ça, ils ont sali mon nom parmi les nations. Je vais corriger ma réputation par l'appel d'un peuple qui vivra d'un lavage d'eau et du Saint-Esprit. Vous réagissez. On est entre nous. Et ça fait du bien d'aborder ces choses. Oui. Déjà, on a dit quelque chose de capital. L'image de Dieu, c'est le Christ. Et pas que la justice imputée, mais aussi la justice de transformation. Il y a des gens qui disent, oui, mais il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que ce soit efficace. Je dirais certainement, ils ont besoin en tout cas d'une secouade de l'Esprit Saint pour se remettre en marche. Pourquoi cette tension chez l'apôtre Paul entre le déjà et ce qui est encore à venir? C'est pour nous mettre en marche. Pour qu'on ne se croit pas arrivé. On y est, de donner une visibilité, serré dans ses bras, j'aime beaucoup ça. Oui.
Que le Christ vienne, et tu sais, comme il a pris les enfants sur les genoux.
Oui.
C'est un petit peu comme WhatsApp, tu vois. Je vis avec mes enfants.
WhatsApp.
WhatsApp. Alors, je vois mes petits-enfants, magnifique. C'est super, là, ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui. Ça ne remplace pas. Ça remplace pas la matérialité de la chose.
Oui.
Oui. Le monde de la résurrection. Le Christ est ressuscité, premier-né d'entre les morts. Et Sachez qu'à partir de janvier, on s'était mis d'accord, on aborde les sujets de l'espérance. Hein. On aborde les sujets de l'espérance. On arrivera à ce genre de choses parce que ça nourrit la foi. Et enfin, comment réagissez-vous par rapport à votre propre conscience de ne pas toujours aimer comme vous le devriez ? Et ça, pour le travail avec les aînés, que je commence à être, hein, pardon pour les plus aînés là, mais le travail avec les aînés est une question très importante. Comment on se considère quand on est en EMS, par exemple, hein ? Quand on est chrétien et en EMS, et qu'on est limité physiquement, c'est une question qui revient de plein fouet à ce moment-là, par exemple. De savoir qu'il n'y a plus aucune condamnation pour quelqu'un en Jésus-Christ, de savoir que ça, c'est réglé, qu'il y a une dimension objective au salut, et pas que subjective. Vous vous souvenez cette question ? Hein ? Elle est importante. Celui qui croit, qui a la foi dans les promesses de Dieu, a une foi objective. Ça n'empêche qu'il vit avec des sentiments, mais ce n'est pas le sentiment qui va lui donner sa foi. Comprenez ? Ce n'est pas le sentiment qui va donner sa foi. C'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. J'arrive à des conclusions que je vous propose. Donc, en janvier, on abordera comment voyons-nous la méga transformation à venir introduite par la venue de Jésus-Christ. On y arrivera, d'accord ? C'est juste pour vous dire que je ne le traite pas là. Voici des éléments de conclusion. Être en Christ, si quelqu'un est en Christ, d'accord ? Être en Christ, c'est posséder de ce chef, de ce sauveur. Être en Christ, c'est posséder de ce chef, maintenant déjà, communautairement, les biens du monde à venir. Quelque chose d'un monde guéri vient faire irruption en nous ici déjà. Par l'esprit. C'est le travail de l'esprit d'anticiper ce monde. Corinthiens 1:20, est-ce que tu l'as, Philippe ? Je te vois ouvrir la Bible. Est-ce que je ne me trompe pas ?
C'est ça.
Tu veux bien ?
Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui et amen ?
Ce n'est pas dans une morale, ce n'est pas dans une dénomination, c'est en lui. En lui, tu relis la première partie de ce verset, c'était tellement beau.
Car c'est en lui que Dieu a dit oui.
En Christ, Dieu a dit oui à tout ce qu'il a promis. Dans cette situation de rapport, en lui, on a part à sa vie. Cette foi est capable de porter la tension entre le déjà et le pas encore, entre le grognement légitime en nous, quand on sent que vous voudrez que ça change dans la famille ou dans nos cœurs, ou dans l'église, ou dans le travail, quand ça grogne. Et il y en a des choses, et il y a des peines à porter, et ce n'est pas normal qu'on ne porte pas de peine. Cette foi est capable de porter la tension entre notre confession et la réalité dans notre monde. Ce tonus est indispensable pour nous aider dans notre marche et notre motivation pour aller de l'avant. Ainsi serons-nous transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande. Ainsi, ça veut dire que la gloire toujours plus grande n'est pas nécessairement seulement dans ce monde-là, mais aussi dans ce qui va encore venir. Voici, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Oui, je t'en prie.
Déjà et pas.
Oui.
Pour moi, il y a déjà et pas encore, parce que nous avons une dimension qui est l'espace. Pour Dieu, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, c'est lui qui l'a créé.
C'est ça.
Mais il est hors de ce temps.
Oui.
Il est à notre naissance, une nouvelle naissance.
Oui.
Il est au moment dans le paradis. Pour lui, on y est déjà. Quoi.
Voilà. Oui, oui. Oui, cette tension est là. Oui.
Quand on sera hors de cette limite, je crois que c'est ça qu'on sera. On ne sera plus, l'éternité ne sera plus une dimension,
oui.
Infinie non plus. Quand
oui.
On sera hors de ces limites, je crois que cette tension du déjà du pas encore est due à ça.
Oui.
On sera hors de ces limites.
C'est évident que cette tension n'existe que le temps. Moi, simplement en tant que votre pasteur et puis théologien aussi, un peu sur le bord, Je trouve aucun passage qui dit que le temps n'existera plus. C'est pour ça que je suis un petit peu sur la... Je l'entends, mais ça me dépasse. On pourrait faire une étude là-dessus. Alors, je vous montre quelque chose. Je trouve chez les Thessaloniciens une des premières épîtres de Paul qui nous est parvenue. Il a des phrases bizarres maintenant qui s'éclairent un petit peu mieux. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour, ça on comprend. D'accord ? Croître, pousser, abonder en quantité et en qualité. D'accord ? Et c'est progressif, vous avez vu ? Que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Qu'ils affermissent, affermir ça veut dire qu'ils rendent plus solide, qu'ils affermissent ainsi vos cœurs. Le cœur, c'est le siège de la personnalité. C'est là où je fais des choix, et parmi les choix où je dis, le Seigneur Jésus, je veux qu'il domine sur mes valeurs. Que vos cœurs. Ainsi, qu'il affermisse ainsi vos cœurs dans une sainteté irréprochable. Alors le mot irréprochable, hein, je crois que certains ici, les anciens darbistes par exemple, ou ménonites, ou peu importe, hein, ils n'aiment pas trop irréprochable. Hein. Ça fait sainte ni touche. Hein. Ça fait, mais irréprochable, l'amour est dans l'irréprochable. Vous comprenez ? Adulte en amour. Hein. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs dans une sainteté ou un amour irréprochable devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Alors, c'est bizarre, hein, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il mélange là-dedans ? C'est pour dire juste que il y a une chose qui nous suit. C'est pas l'aspect physique. C'est pas le compte en banque. C'est pas le certificat de baptême. C'est quoi ? La sainteté. L'amour est éternel. Et ce n'est pas de la poésie. D'accord ? L'amour est éternel. Vous savez où c'est marqué ? L'Épître aux Romains. L'amour est éternel. C'est le seul qui est éternel. Autrement dit, quand il revient, toutes nos actions sont suivies des faits. Et ça, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Et leurs œuvres les suivent, nous dit l'Apocalypse. Autrement dit, le Seigneur nous invite à considérer que même dans l'inachèvement de ma personne, de vos personnes, de nos communautés, même dans l'inachèvement. Il s'agit quand même d'une école de cadre, d'un monde à venir. Vous savez ce que c'est une école de cadre ? Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de cadre ? Où on apprend à gérer le pouvoir sur soi et sur autrui. C'est ça, la relation avec lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous ceux qui ont son image. Et dans les Thessaloniciens, vous avez ce passage. Thessaloniciens 5, j'essaie juste de vous montrer les relations internes dans la pensée de Paul, d'accord ? Pour qu'elle corrige éventuellement les nôtres et qu'on puisse même se réjouir de l'inachèvement, sachant que c'est notre terrain d'entraînement pour aimer. D'accord ? Que le Dieu de Shalom, lui-même, vous sanctifie totalement. Sanctifier, encore une fois, c'est ce mot, vous savez, qu'on n'aime pas trop. Vous mettre particulièrement à part pour porter son image. Hein. Et que votre esprit, votre âme et votre corps, et c'est intéressant que les trois sont concernés. Hein. Le corps aussi. Soit parfaitement gardé pour être irréprochable. Encore une fois, ce mot qui nous fait hérisser. Hein. Pas irréprochable. En amour. Irréprochable en amour, ça va mieux. Hein. Peut mieux faire, il y avait marqué sur mon bulletin, je vous l'ai déjà dit, hein, mais souvent marqué, et c'est un compliment. Alors, parfaitement gardé pour être irréprochable lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, ça va avoir des conséquences. Il y a une relation entre les choses. C'est pour ça que je vous dis, notre vie, regardez-la comme une école des cadres du monde qui vient. Parce que je crois que Paul pensait comme ça. J'utilise juste des mots. Vous voyez la relation entre les choses, les éléments de la phrase ? Celui qui vous appelle, lui, il est fidèle. C'est lui, encore, qui agira. Notre Seigneur l'Esprit est dans le coup. Hein. Ne jamais faire de la morale sans l'Esprit. Jamais d'impératif sans l'indicatif, je te donne. Voilà. Ben écoutez, moi, c'est ce que je voulais essayer d'aborder avec vous. C'est la nécessité et le comment de cette nouvelle création et cette attente d'une possibilité de service, d'entraînement, d'apprendre à se dire la vérité, à se considérer avec honneur, à se respecter qui qu'on soit, comme le Seigneur l'a fait, mais aussi venir au secours de quelqu'un qui en aurait besoin. Est-ce que l'un de vous veut encore prendre la parole ? Quant à moi, je suis arrivé au but que je m'étais fixé dans le laps de temps de 9h30, de l'heure et demie. La parole de Dieu, elle est importante dans son équilibre. Un docteur, un docteur, c'est pas un titre académique dans l'Église. C'est quelqu'un qui touche l'équilibre des choses. D'accord ? Un prophète, c'est quelqu'un qui donne une parole à un moment donné, dans une situation précise. Maintenant, les docteurs dans l'Église touchent précisément cet équilibre. Dans les prédications, on ne fait que annoncer un pied. Déjà, les gens vont s'y croire. Ils ne vont plus faire d'efforts. Si vous annoncez que le pas encore, ils vont être découragés. Vous saisissez ? Je te donne un exemple. Je me souviens, quand j'étais jeune converti, j'allais dans des milieux un peu de sanctification un peu plus parfaite que les autres. Et puis, il y avait un monsieur là-bas qui confessait, je crois que vous êtes tous adultes, je peux le dire, qui confessait qu'il pratiquait la masturbation, mais qu'il était libéré, que maintenant, depuis, il n'a plus de tentation. J'ai dit, et mon œil. Comment dire ? Vous voyez, le déjà. Maintenant, il aurait mieux fait de ne pas jouer le jeu du pardon, et je te redemande pardon, et je te redemande pardon, je te redemande pardon, et qu'il vive l'éducation de ses pulsions sexuelles, plutôt que de jouer le jeu du pardon. Qu'est-ce qui manquait ? L'éducation. Sa manière de considérer une femme, notamment, puisqu'il s'agissait d'un homme. Vous saisissez ? Comment orienter quelqu'un qui vit que de la notion de pardon et de la libération, mais pas de la gestion de ses pulsions. Là, on parle d'un domaine, on pourrait parler de l'économie, on pourrait parler de la parole, de la relation et du conflit. Mais je crois que c'est important dans l'Écriture, de continuer à faire ce qu'on fait finalement, où on aborde aussi des sujets de comportement chrétien, pour qu'on apprenne de Jésus, ou qu'on soit au moins, qu'on lui laisse la possibilité de nous orienter, de nous discipliner d'une manière consentie, pour que nos relations soient plus guéries. Est-ce que je donne un exemple ? Oui. Tu vois, dans une église où on ne prêche que le déjà, ou dans une église où on prêche que le pas encore, il n'y a pas l'attention nécessaire pour avancer comme des convalescents. Moi, j'aime bien considérer l'église comme des convalescents de la grâce. Vous saisissez, un convalescent, ce n'est pas un malade et ce n'est pas un guéri. C'est en bonne voie. Ça, notre Seigneur l'Esprit peut continuer à le faire dans nos vies. J'ai un peu répondu par un exemple et puis une illustration. Mais certainement, le Seigneur, il fait de la récup. Si on a accès à la parole, hein, tu te rends compte, si on n'avait que l'apôtre Paul et pas les évangiles, imaginez, Imaginez. Ce serait difficile de savoir ce que c'est vraiment l'image de Dieu dans le concret de sa manière d'être avec des femmes, des hommes, des lépreux et des étrangers et des religieux et puis et dans l'esprit hein, des choses. C'est vrai. Nous sommes perfectibles par l'esprit. Merci pour votre participation. Que cette grâce de l'image de Dieu soit restaurée le mieux possible. C'est un peu la prière pour chacun d'entre nous, mais aussi collectivement, hein, en tant qu'Église, corps de Christ, que nous portions cette image de Dieu ensemble le mieux possible, avec tous les ajustements qui sont nécessaires, avec les différents âges et puis les situations dans lesquelles il nous mettra. Je vous invite à la prière. Est-ce que tu serais d'accord de...